Bonjour à tous. Bon, ben, bienvenue à la conférence Jeux vidéo dans les coulisses de la production. Puisque voilà. On va parler un petit peu des jeux vidéo et de la production des jeux vidéo et comment ça se passe et comment vous pensez que ça se passe. Et avec nos invités qui vont du coup se présenter dans l'ordre de galanterie ou. Vas-y, je t'en prie, commence.
Donc moi je m'appelle Joanne Rousseau, je suis cofondatrice de la société Spiders et je fais un peu de scénar, je fais du game design et surtout je dirige le studio en fait. Voilà.
Et du coup vous bossez sur quoi en ce moment, juste pour resituer?
Je ne peux pas trop en parler.
Bon, on va pas en parler, c'est secret, top.
Oui, par contre on vient de sortir, il y a quelques mois, on vient de sortir le jeu Technomancer sur PC et console de salon.
D'accord, peut-être que des gens ici connaissent, j'espère. Je vois.
On a une expo en fait à l'entrée dans la partie jeux vidéo avec quelques visuels, enfin un concept art du jeu.
Je t'en prie. Oui. Alors bonjour, moi c'est William. Je suis cofondateur et game designer dans un studio qui s'appelle Swing Swing Submarine, qui est basé à Montpellier. On est environ 6 personnes. Jeanne, vous êtes combien à Spiders?
Maintenant, on est 26.
D'accord. Donc voilà, 6 personnes. C'est juste pour se rendre compte des différences de studio, même s'il n'y a pas peut-être beaucoup de différences. Voilà, et donc en ce moment, je ne peux pas non plus dire sur quoi je travaille, puisque ça fait qu'un mois qu'on a commencé à reprendre un projet. Mais un peu comme Jeanne, on a sorti il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a un mois pour nous, un jeu qui s'appelle Seasons After Fall, qui est un jeu d'exploration qui est disponible sur Steam et à partir de début de l'année prochaine sur... PS4 et Xbox 360, Xbox One. Je suis pas à la page du tout sur les consoles next gen. Et donc on a aussi une petite exposition à l'entrée de la convention. Voilà.
C'est un super beau jeu.
Merci.
Et on va finir par Godefroy.
Bonjour, donc moi c'est Godefroy de Compregnac. Je suis cofondateur et développeur chez Lonestone Studio, un studio assez jeune qui est rue de Strasbourg à Nantes là. On est en train de préparer notre premier jeu mobile et PC que vous pouvez tester ici. Et je préside le cluster d'entreprises de jeux vidéo Atlan Games, qui représente les boîtes de jeux vidéo dans l'ouest de la France.
Tout à fait. Voilà, et Atlan Games, où mon studio est aussi, donc EOD, pour lequel je suis directeur créatif et gérant. Et très très jeune studio pour le coup, on a à peine un an. Et un peu moins, ouais, je sais plus exactement, ça passe très vite. Donc,
c'est vrai que j'ai oublié de préciser que Spiders, on existe depuis 2008 en fait. Donc on est,
ouais, c'est les anciens.
Je pense que c'est nous les plus vieux, les aînés.
Du coup, on pensait, pour faciliter la discussion et la centrer, commencer directement en fait, avec vos questions. Ou en tout cas ce que vous savez de la production des jeux vidéo. Et si personne n'a de questions particulières, on va pouvoir rentrer dans le détail en essayant d'être synthétique et de vous éclairer sur les arcanes de la production de jeux. Est-ce que quelqu'un a déjà des questions ou des éclaircissements, des choses qui leur paraissent... obscurs dans le milieu, sachant que pour le coup, nous, on a chacun des expériences différentes et on va pouvoir vous parler chacun des expériences de nos équipes, la façon dont on travaille. On peut parler de la composition de nos équipes, de la production d'un jeu, comment ça se passe de la création à la sortie et comment on s'en sort dans cette industrie qui est difficile pour les petits en tout cas.
En sachant qu'en plus, selon la taille du studio, selon les plateformes, beaucoup, ça change pas mal de choses quand même. Quand on développe notamment sur mobile, je sais qu'on n'a pas spécialement les mêmes... Parce que j'ai travaillé chez Gameloft il y a longtemps. Je sais qu'on n'a pas les mêmes contraintes ou les mêmes problématiques que quand on travaille sur console, où on a aussi des contraintes, mais elles ne sont juste pas situées au même endroit. Donc voilà, chaque studio, c'est un peu un mode de fonctionnement qui est assez spécifique et une culture en général... différentes, quoi.
C'est vrai que notre stratégie business fait aussi qu'on développe notre jeu pour mobile et PC, mais on le développe une seule fois avec Unity 3D. Alors ça veut dire qu'il faut adapter les interfaces et faire en sorte que ça soit compatible aussi bien au niveau visuel qu'au niveau utilisation avec l'écran tactile, avec la souris, etc. Donc c'est des enjeux techniques aussi au niveau des performances, parce qu'on ne peut pas tout se permettre. On ne peut pas se permettre, par exemple, de mettre des lumières dans tous les sens, des ombres, du brouillard, des effets spéciaux, etc.
Ça, c'est aussi vrai sur console, en fait.
Oui, c'est vrai, dans une autre mesure. Mais c'est vrai que sur mobile, il faut faire hyper attention. Même si il commence à y avoir des mobiles très puissants, il faut se méfier parce qu'il y a une très grosse fracturation du marché qui fait que on doit quand même viser le parc de mobiles le plus global pour que le jeu tourne bien.
Il y a un truc qui m'inquiète un petit peu avant, juste avant qu'on rentre dans les détails, c'est savoir peut-être juste ici, pourquoi pas lever de main, savoir qui a une idée de comment on conçoit un jeu vidéo, comment se passe la conception d'un jeu vidéo, puis on peut faire un lever de main, comme ça on voit à peu près qui se situe où, et à peine, moi je suis débutant, donc du coup je vais moyen. Ah, et pas beaucoup, du coup c'est peut-être bien qu'on... Je sais pas, qu'on recadre.
Je pense que ce serait bien qu'on explique un petit peu. Donc, alors, ce sont avant tout des êtres humains qui font les jeux vidéo. Ce ne sont pas des machines. On demande aux machines de les créer pour nous. Typiquement, pour faire un jeu vidéo, on va dire, il faudrait d'abord, je dirais, un programmeur et non pas un programmateur. D'accord ?
Ça, c'est sur la machine à laver.
Oui, voilà.
Ah, tout à fait. Et puis, faites attention, ne leur faites pas faites la différence. C'est important pour eux.
Je dis un programmeur parce que avant, il y a un petit moment, et qui n'est pas si lointain que ça d'ailleurs, c'était avant tout des jeux pouvaient être faits par une seule personne et qui savait programmer, qui savait faire du game design. Donc game design, ça veut dire de la conception de jeux en bon français, et qui faisait aussi la musique et les graphismes. Donc voilà.
Avec plus ou moins de bonheur.
Ouais, voilà. Bon. On a quand même des bons exemples en France, Éric Chahi, Frédéric Rénal. Paul Cuisset, tout à fait. Ensuite, ce qui est bien, alors maintenant les métiers sont un peu plus détaillés, c'est-à-dire que maintenant, justement, on va dire qu'on a d'abord un programmeur, parce que s'il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de jeu vidéo, surtout le vidéo qui est important. Un graphiste, souvent. J'ai envie de dire que le game designer, à la limite, c'est peut-être pas.
C'est horrible ce que tu dis, parce que moi je me bats contre ça depuis des années.
Mais je suis game designer, donc je peux dire que.
C'est un débat qu'on va difficilement.
On va dire que programmeur, graphiste, sound designer, c'est bien pour faire une équipe. Voilà.
En fait, simplement tout ce qu'il faut, parce que la spécialité de notre industrie, c'est quand même d'avoir une œuvre complète et surtout universelle, dans le sens où elle regroupe plein d'autres corps de métiers qui sont eux-mêmes des œuvres. Une musique est une œuvre, un graphisme ou un style, une DA, comme on dit chez nous, ou d'autres industries comme le film. Donc une direction artistique, tout ça, c'est des œuvres à part, et le jeu vidéo va rassembler ces œuvres dans une œuvre interactive qui englobe tout ça. Et donc c'est un ensemble d'artistes, y compris les programmeurs qui en sont, surtout dans notre industrie, parce qu'ils créent l'interactivité et ils font en sorte que ça fonctionne et que les autres aient les moyens aussi de leurs ambitions.
Et puis finalement, je vais aller un peu, je vais aller carrément dans ton sens, mais même sur le côté vraiment purement code, au-delà du fait qu'ils créent l'interactivité, parce qu'en fait c'est quand même plutôt de la conception du game designer à l'origine, avec leur code en lui-même, le fait qu'il soit justement optimisé pour pouvoir tourner sur plein de plateformes, qu'il soit l'inventivité dont ils doivent faire preuve pour pouvoir faire en sorte que le jeu fonctionne, qu'il soit beau, qu'il soit, etc. Oui, effectivement, c'est vraiment un travail artistique en réalité.
Et ça, c'est des choses même qu'on perd un petit peu avec le temps, avec les nouveaux moteurs de jeu qui permettent de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Quand on regarde comment étaient programmés les jeux sur console avant, par exemple sur Super NES ou sur 64, c'était des trésors d'inventivité de la part des développeurs pour exploiter au maximum les capacités des consoles, parfois même plus que ce que les concepteurs de la console pensaient possible.
Oui, de toute façon, c'est un type de programmation qui venait... À l'époque, beaucoup de programmeurs venaient de la démo scène, donc des gens qui étaient habitués effectivement à faire du code très léger et capable effectivement d'afficher des choses assez incroyables, quoi.
Je viens de penser à un truc, du coup c'est vrai que par rapport à, il y a eu un gros changement d'orientation dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'avant pratiquement on pouvait considérer que le maître à bord c'était le programmeur qui faisait vraiment en sorte que tout fonctionne, et il faisait pratiquement parfois les graphismes au tout début, en tout cas.
C'est encore le cas dans certains rares jeux, mais qui sont pourtant très, très, pour certains qui ont beaucoup de succès. Enfin, Minecraft, c'est quand même l'histoire d'un seul homme.
Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On a tendance à donner aux game designers et ou alors même aux directeurs créatifs, qui est mon titre pompeux qu'on vient mettre, mais qui va orienter la création, et les programmeurs perdent ce côté artiste.
Après, c'est aussi là, je pense, qu'on voit la différence de manière générale, hein, c'est pas toujours le cas, mais la différence entre les productions dites indie ou indépendantes et les très grosses productions dites AAA. Où là, pour les AAA, on est obligé d'avoir de bosser avec tellement de personnes, parce que il faut, faut une quantité de travail énorme, qu'on est obligé de séparer les tâches par cœur de métier très différent.
Il y a une forme de taylorisme, oui, dans les grosses boîtes. Juste pour donner un ordre d'idée, hein, parce que effectivement, dans les petits studios qui vont travailler sur donc des jeux forcément moins ambitieux, ça peut aller de une donc pour Minecraft à mais quelques personnes, vraiment une poignée de gens. Là, on vous a dit à peu près combien il y en avait de gens dans nos studios respectifs. Un jeu comme les jeux d'Ubisoft d'aujourd'hui, par exemple, c'est plutôt 300 personnes. Donc c'est quand même un scope qui n'a absolument rien à voir. Donc évidemment, ça demande des équipes qui sont beaucoup plus hiérarchisées, avec un système pyramidal de validation, de décision, etc. Et avec des gens, même par exemple en graphisme, il va y avoir un spécialiste des fenêtres, un spécialiste des portes, un spécialiste des murs, et ainsi de suite, pour se répartir la construction d'un univers.
Et qui ne fait même pas les fenêtres entièrement.
Ah oui, bien sûr que non.
Parce qu'il y en a un qui modélise, un qui fait les textures, un qui fait le rendering, un qui fait les shaders, et puis un qui intègre. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Donc c'est vraiment des chaînes de production qui n'ont absolument rien à voir. Et alors il y a des gens qui aiment bien travailler dans les grosses sociétés parce que ça a une forme de confort, on se pose moins de questions, on est drivé sur la production, etc.
Ils sont étranges aussi.
Pour d'autres, en général, les gens qui travaillent dans les petits studios, c'est l'inverse, c'est insupportable comme idée de se retrouver finalement à ne voir qu'un des tout petits morceaux d'une production. Et de ne pas pouvoir avoir un regard global sur tout ce qui se passe, de ne pas pouvoir échanger au quotidien avec les autres corps de métier. Parce que moi, je dois avouer que c'est ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est le fait de pouvoir travailler avec des... Justement, on a parlé d'artistes tout à l'heure, mais des artistes de tous bords, des techniciens extraordinaires, des musiciens, des acteurs, même puisque maintenant, la mocap, on l'a fait avec des acteurs. On travaille vraiment avec des gens qui couvrent des métiers très, très variés, desquels on peut apprendre tous les jours énormément de choses. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, en fait.
C'est ce que je trouve passionnant aussi, c'est le fait... Alors moi, je bossais beaucoup dans le web avant, et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, j'ai dû me mettre à apprendre comment développer avec des outils 3D, des choses comme ça, et puis à travailler avec des illustrateurs, des character designers, des graphistes 3D, des compositeurs, etc.
Des animateurs, des skinners, animateurs. Alors ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On pourrait passer la dernière demi-heure à vous expliquer le nombre de métiers qu'il y aurait à diviser dans chaque catégorie. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je peux, pour les chaînes graphiques, je pourrais vous en citer sans m'arrêter pendant longtemps. On va essayer de simplifier les choses. Mais après, si vous avez des questions particulières sur certains métiers, je pense qu'on pourra les aborder. Du coup, peut-être que quelqu'un, tout d'un coup, a une question très importante qui lui tarde de... Est-ce que quelqu'un peut... Si ça ne vous dérange pas,
Vous parlez beaucoup de technique, mais est-ce que vous pouvez parler de l'idée de départ du jeu, de la thématique qu'il a créée? Il y a un storyboard, comment ça se passe?
Tout à fait, on peut vous parler de comment, peut-être, vous commencez... De l'idée, déjà.
Je peux commencer, si vous voulez. Donc, dans un studio comme Ubisoft, par exemple, alors c'est peut-être toi qui connais mieux, d'ailleurs, Johan. Moi, j'y suis allé, mais...
Ouais, enfin, moi, ça remonte à y a longtemps.
Mais comment dans un triple A, ça se passe
dans un grand studio?
Moi, j'ai pas eu la chance, à l'époque, quand j'étais là-bas, de travailler sur des nouveaux concepts, vraiment. On reprenait des licences qui étaient existantes. Rayman, par exemple, ou des licences de jeux sportifs, etc. Et après, effectivement, à partir de là, on essayait d'imaginer un nouveau gameplay, parce qu'il fallait produire une nouvelle occurrence. Il ne s'agissait pas de reproduire complètement un jeu déjà existant. J'ai travaillé aussi sur les Splinter Cell, etc. Donc, mais il y avait déjà une licence existante, un monde qui avait déjà été inventé à l'origine. Et le but, c'était qu'on imagine un gameplay et une expérience de jeu qui correspondent le mieux à cet univers qui avait déjà été pensé par d'autres gens. Donc c'est une démarche un peu particulière. Qui peut être un peu frustrante parfois parce qu'on était très cadré.
C'est presque une démarche industrielle dans le sens où on va répondre avant tout à un besoin. Et pour le coup, parfois en indé, on n'est pas du tout dans cette optique-là et on répond plutôt à une envie.
Ouais. En tout cas, dans les grands studios, comment ça se fait? Alors je sais, je suis passé dans une école de jeu, Supinfo Game, Et donc je sais qu'à l'époque où j'y étais, on faisait croire aux étudiants que le game designer était la personne qui apportait l'idée et qu'ensuite c'est lui qui allait initier le projet. Aujourd'hui, on peut dire que quand même dans un grand studio, c'est d'abord la partie éditoriale qui décide si un projet se fait ou non. Après, le début du projet peut vraiment venir d'une seule personne, mais après ça va lui être un petit peu retiré parce qu'il appartient au studio, donc l'idée appartient au studio et non à cette personne-là. Et ensuite, voilà, il y a toute une chaîne qui va se mettre en place pour décider si oui ou non le projet est viable, puisque le jeu vidéo est avant tout une industrie aujourd'hui, et donc il est important que les idées qui vont être développées et les jeux qui vont être développés soient à la fois cool et à la fois
vendables.
Ouais, c'est ça, qu'on puisse en faire quelque chose pour remplir un compte en banque et faire encore plus, et faire d'autres jeux ensuite. Par exemple, là j'y suis confronté en ce moment, on est en train de recommencer des nouveaux jeux. Alors nous on est 6, donc c'est très différent. Et en plus je suis un des cofondateurs, donc on va dire que quand je propose une idée, ben... C'est pas que je l'impose, mais c'est vrai que c'est moi qui ai le plus de temps pour penser à des nouvelles idées, quoi. Et ça, par exemple, on est en train de faire des nouveaux projets, et il y a certaines personnes dans l'équipe qui disent « Ouais, mais c'est embêtant, c'est encore toi qui a amené le truc », alors qu'en plus, c'est vrai que cette fois-ci, je voulais pas amener le projet. Et du coup, voilà, c'est important dans une petite équipe que tout le monde fasse partie du processus de création. Donc là, c'est toute l'équipe qui va décider quel jeu on fait. Et comme ça a été mon cas, là, puisque je suis allé voir des éditeurs pour voir s'ils étaient intéressés ou non par le projet, là, on reçoit des retours et on nous dit on pense que ce jeu n'est pas fait pour nous. Donc là, l'éditeur va refuser le projet parce qu'en fait, le projet, ils pensent qu'ils ne pourront rien en faire. Ils peuvent aussi le refuser parce qu'il est nul. Bon, là, ce n'était pas notre cas, mais... Et la raison pour laquelle ils l'ont refusé, ce n'était pas du tout d'un point de vue du gameplay, c'était d'un point de vue de l'univers. En fait, c'était pas du tout ce qu'ils attendaient de nous. Et donc, avec juste un mauvais choix d'univers ou un mauvais interlocuteur, en tout cas, un jeu ne peut ne pas se faire, tout simplement.
Oui, là, ça aborde la problématique du financement. Parce que, oui. Alors, il y en a peut-être qui se posent la question. Je vais changer un petit peu. Enfin, ça reste le même sujet, mais
ça reste au final le sujet de toi, ta création là, de jeu.
Enfin, pour parler un petit peu de mon histoire et pour répondre à ceux qui se demanderaient comment on fait alors quand on part de zéro, quand on a une idée de jeu et qu'on veut la réaliser et peut-être en faire son métier, déjà à la base, en général, ça part d'une volonté et d'une passion de une, deux, trois personnes qui vont travailler sur un concept au début. Alors ça peut être des concepts papier, style jeu de société, ou un prototype développé rapidement avec Unity ou Game Maker ou Unreal Engine ou quelque chose comme ça. Après, une fois qu'on voit que quelque chose est faisable, que le prototype a du sens, l'idée, ça va être de créer une société, donc une structure en SARL ou SAS, par exemple, pour pouvoir... englober le projet, gérer la propriété intellectuelle, c'est ce qui est très important pour un studio, et pour pouvoir gérer les finances et le recrutement. Parce qu'après, souvent, il faut déjà pouvoir motiver les associés à rester dans la structure, avoir un objectif commun, et puis pouvoir recruter des nouveaux talents pour aider à réaliser le jeu, que ce soit en contrat classique ou en freelance, ce qui se fait beaucoup dans le jeu vidéo.
Dans certains métiers, ouais, tout ce qui est métier artistique, surtout. Moins dans les autres domaines, en général.
C'est vrai.
Donc là, rien qu'avec ce que tu dis, on voit que le jeu vidéo, c'est pas juste, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue purement schématique, le développement, c'est-à-dire quelques personnes qui se disent « Tiens, je vais faire un jeu », mais ça englobe vraiment beaucoup de domaines de compétences différents.
Dans tous les cas, c'est une production assez conséquente, dans tous les cas, même en indé. Donc ça vient tout de suite à des conséquences aussi grandes, même pour une décision d'un petit jeu indé, en fait.
Voilà, et presque, alors c'est pas toujours le cas, mais presque tous les studios indés qui se lancent et qui font leur structure ont quand même besoin de financement externe pour pouvoir, rien que le fait de financer la production musicale quand on n'a pas de musicien dans l'équipe, par exemple,
ou matériel,
pour prévoir du marketing, payer le matériel.
Ou en considérant qu'on se paye pas déjà.
Payer des locaux, se payer des salaires si on a assez de financement pour le faire, ce qui est déjà un luxe pour certains studios. Ouais.
Oui, ce qui n'est pas, en tout cas, pour nous, n'est pas le cas.
Et donc après, pour le financement, il y a plein de solutions, mais souvent, ça s'axe sur déjà de la love money, c'est-à-dire de l'argent mis par les fondateurs et leurs familles, de la subvention, parce qu'on a la chance d'avoir des organismes comme le CNC qui subventionne de nombreux projets en France. On a eu la chance d'en avoir pour mon projet, William aussi. Et
nous, au début,
toi,
aussi,
je sais pas. Oui, voilà.
On n'en demande plus aujourd'hui parce que on estime qu'on est suffisamment gros maintenant pour plus aller justement réclamer ce genre d'aide, mais oui, bien sûr.
Il y en a que ça gêne pas.
C'est pas le cas de beaucoup de gros studios. c'est bien.
On a une éthique.
Non, mais c'est bien. On peut quand même saluer l'éthique de nos collègues.
Et alors, quelque chose qui se fait beaucoup aussi pour le financement, c'est faire de la prestation de service. Il y a beaucoup de studios qui proposent leurs prestations,
aussi.
Soit pour développer des jeux commerciaux, des advergames, des choses comme ça, soit pour faire du web aussi, parce qu'il y a souvent des compétences croisées. Quand on sait développer, ça peut...
Ou toute compétence qu'on a dans le studio, qu'on peut vendre de façon
rentable.
C'est
beaucoup les mercenaires au départ.
C'est vraiment d'être mercenaire.
L'équipe fondatrice, effectivement, est un peu obligée de vendre ses compétences pour essayer de ramener un peu de sous dans la structure. Quoi.
Vous apprenez là une réalité dure du jeu vidéo, c'est-à-dire que beaucoup de jeux indés commencent en survivant, en bossant dans la pub, parce que le jeu n'est pas rentable, et clairement pas dès le début, c'est difficile.
C'est surtout qu'en fait, avant d'avoir un jeu qu'on peut distribuer, et donc commencer à récupérer des sous par le projet en lui-même, il y a des mois, voire des années de boulot.
C'est très long, une production d'un jeu, même un dé à petite échelle. Un jeu mobile peut tout de suite prendre 6 mois pour une petite équipe, même si vous vous dites, c'est un petit jeu indé mobile, je vais passer 2 minutes dessus et puis passer à quelque chose d'autre. C'est un an de travail pour une petite équipe et tant de budget que tu n'as pas au départ.
Et le cas le plus classique que j'ai vu, c'était plutôt des fondateurs qui pensaient mettre 1 an au début et qui finalement en mettent 3. Et c'est notre cas aussi. Hein.
Notamment
c'est
parce que justement, on doit faire des choses à côté. Quoi. Et quand forcément, on bosse finalement qu'à carton sur notre projet parce qu'il faut rentrer un peu de sous dans la boîte, on se retrouve du coup à avancer plus lentement sur le jeu qui pourtant a motivé au départ la création de la société.
C'est très difficile moralement. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai bossé pratiquement la moitié de mon temps sur des projets externes, en gestion de projet, en direction artistique. Je fais des dessins animés commerciaux, de la publicité pour le Pôle emploi ou j'en sais rien. Mais voilà la joie. Mais c'est hyper, on n'a pas le choix. On doit bosser dans des vraies industries pour pouvoir survivre dans la nôtre.
C'est vraiment méchant.
non, c'est triste, je blague évidemment. On est une vraie industrie et on
alors,
devrait avoir le droit d'en
vivre. Alors, ceci dit, dans ton studio, Antoine, vous avez aussi fait plusieurs mini-jeux justement pour en prestation de service.
Oui.
Ce qui vous a aidé à vous financer aussi.
Donc, oui, ce qu'on est toujours en train de faire pour le moment.
Voilà.
On fait du jeu pour les autres qui forcent. Ne répond pas forcément aux critères.
Dans les studios indés, enfin, je m'avance peut-être en disant ça, mais dans les petits studios au départ, en tout cas quand on se lance, avoir un projet énorme en se disant on va faire un truc gigantesque, digne des super productions qu'ils peuvent avoir, c'est complètement illusoire. Enfin, il faut plutôt penser petit projet qu'on va pouvoir justement boucler avec une petite équipe.
Nous allons commencer.
Sinon, c'est aller dans le mur directement.
On va commencer en faisant un MMO RPG, un gameplay
alors,
émergent.
Par exemple, ça, c'est une mauvaise idée.
Je dis ça pour nous, pour notre part. Mais souvent, on abandonne le premier projet étrangement. La plupart, je pense que beaucoup de studios doivent abandonner le projet qui a vu leur création, en fait. Ça doit arriver, je pense.
Pas nous, pour l'instant.
Non.
Nous, on se l'est mis derrière l'oreille et on a réussi à le développer. En fait, Technomancer, c'est la réalisation du premier projet qu'on avait en tête.
D'accord.
Plus de 6 ans après la création de la boîte. D'accord. Évidemment, entre-temps, on a fait plein d'autres jeux.
Ouais. Plein, genre au moins 3-4, quoi, avant de pouvoir faire le jeu.
C'était notre cinquième RPG.
Ouais. Ouais, c'est un point intéressant, je trouve, quand même.
Mais il faut dire que souvent, il y a besoin d'un temps de maturation aussi pour le projet, c'est-à-dire que on peut avoir des associés fondateurs qui ont leur super idée, leur bébé, leur projet, qui veulent faire en un an et le sortir fièrement au bout d'un an, puis se rendre compte qu'au bout d'un an, c'est pas fini, puis au bout de 3 ans... C'est pas fini non plus parce que ça correspond pas vraiment à l'idée qu'ils s'en faisaient et puis surtout leur entre-temps ils ont évolué et ils savent un peu mieux ce qu'ils veulent. Donc ça, l'idée a eu le temps de mûrir.
Il y a ça, et puis la question des financements aussi, hein, vraiment.
Avec le financement en plus, c'est sûr que ça peut prendre du temps.
Il y a un moment où justement, parce qu'il faut manger, on se dit, bon, bah, ce projet-là, on n'y arrive pas, on va passer à quelque chose d'un peu plus simple, qu'on va pouvoir réussir du coup à boucler plus vite. Nous, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que du coup, le premier projet qu'on a réussi commercialement à boucler, c'était un jeu beaucoup, beaucoup plus petit, qu'on a pu du coup développer en 9 mois, et qui a pu sortir, et ça nous a mis le pied à l'étrier pour le reste, quoi. Donc, voilà, c'est...
Tu voulais peut-être ajouter.
Donc, en effet, c'est pas toujours évident de faire le projet qu'on veut, mais c'est quand même possible. Johan le dit, The Technomancer, enfin le projet qui ne s'appelait peut-être pas comme ça au début.
À l'époque, il s'appelait juste Mars. Mais...
Voilà. Tu as dû attendre, et donc du coup, tu as fait en sorte de te donner les moyens de le faire. Juste pour donner le cas de Swing Swing Submarine, on n'a jamais fait de prestation, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est sale, la prestation, c'est juste que c'est un moyen d'arriver à vos fins. Et puis, mine de rien, c'est un moyen aussi de gagner de l'expérience, parce que quand on débute, en effet, c'est dur de trouver du budget ou des choses comme ça, mais c'est aussi dur de savoir si on est au sein de la bonne équipe, c'est dur de savoir si on sait faire un jeu vidéo. Et la meilleure façon de faire un jeu vidéo, c'est de faire un jeu vidéo. Enfin, de savoir faire un jeu vidéo, c'est d'en faire un. Donc, moi je suis pas très théorique en fait dans le jeu vidéo, bien que je sois game designer. Mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, on n'a jamais fait de prestation, et nous aussi, au début, on était deux, on a voulu faire un gros projet, et puis, au bout d'un an et demi, on avait quelque chose, mais quelque chose de pas suffisamment bien. Donc du coup, on l'a mis de côté. On s'est dit, on va pas faire de prestation parce que vraiment on serait mauvais en prestation. On a essayé une fois, ça a duré un mois et c'était nul, vraiment. Donc on s'est dit qu'on n'était pas fait pour ça. Donc on a créé un plus petit jeu. On a un peu suivi le même cursus que vous. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à faire le projet rêvé 6 ans plus tard aussi. On regrette absolument pas du tout ce parcours-là, puisque les jeux qu'on a fait, on voulait de toute façon les faire. Donc, on a toujours pris du plaisir à les faire.
Et pour le coup, si c'est pas indiscret, comment vous avez financé la première prod ?
Alors ça, c'est intéressant.
Si tu veux bien.
Ouais, la première prod. Donc, je sortais d'Ubisoft. Et mon collègue aussi, Guillaume. Et donc, le premier projet a été financé par Pôle Emploi.
Oui, nous aussi.
Avec
c'est possible ça ?
Dans le sens où on était
au chômage.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on est au chômage. On leur montre quand même qu'on a envie de s'en sortir. Et de créer une société, c'était le cas dans notre cas, voilà. Dans ces cas-là, il y a plein de solutions différentes, on va dire, pour récupérer votre argent, l'argent que vous avez mis au Pôle emploi quand vous étiez salarié, on va dire. Nous, on a décidé de laisser filer au fil des mois, c'est-à-dire de ne pas faire un truc spécifique qui est de demander... On peut récupérer 50% de ses droits ou un truc comme ça. Donc nous, on est resté au Pôle emploi, et puis à la fin, on a fini même au RSA, donc avec 400 euros par mois, et exactement. C'était très compliqué. Mais heureusement, le jeu a bien fonctionné. Donc voilà comment a été financé le premier jeu. Le deuxième jeu a été financé entièrement par les ventes du précédent. Et le troisième jeu, puisque le deuxième jeu était meilleur que le premier, mais c'est moins bien vendu, parce que le marché est de plus en plus saturé, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de jeux vidéo, attention, c'est très important. C'est pas négatif la saturation, ça veut dire que plus de gens créent des jeux, et évidemment ça veut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup plus de joueurs, donc il y en a qui vont en vivre et d'autres non, mais pour moi c'est important la diversité des projets. Bref, c'est juste que je n'ai pas envie de donner un aspect négatif du jeu vidéo aujourd'hui. Et donc le troisième projet, du coup, on a trouvé un éditeur, et donc ça a été en partie financé par un éditeur, voilà, et par une subvention du CNC, et par les sous qui nous restaient un petit peu de nos précédentes ventes.
Et du coup, pour ta part, peut-être, du coup, si tu veux bien expliquer
le financement.
Ouais, la part de chaque chose dans le financement pour le moment de votre jeu qui n'est pas encore sorti pour le coup.
Pour le moment, on a eu du financement par les fondateurs, une subvention du CNC. On a eu 75 000 euros du CNC, c'est public. Hein. Vous pouvez voir combien William a eu.
C'est votre argent.
En fait, non. Voilà. Tu sais non. que le CNC, c'est comme pour le, d'ailleurs le financement du cinéma.
C'est vrai. C'est, je l'ai appris récemment. Et
c'est les places de cinéma et ainsi de suite qui ouais. financent tout ça.
C'est,
donc
c'est
aller au cinéma, ça finance nos jeux.
Je ne sais plus exactement.
C'est un statut un peu particulier. Donc je crois qu'il y a une part d'argent public dedans, mais qui est finalement assez limitée. Donc non, en fait, c'est pas.
Même peut-être. De l'Europe, je ne
oui,
sais plus.
Oui, en plus, il y a aussi des fonds de l'Europe. Enfin, ouais. Tout ça est assez mélangé, mais c'est pas.
C'est
en tout cas,
c'est
pas spécialement que les
sous-titres. C'est rattaché au ministère de la Culture.
Je ne comprends pas tout. Mais...
Et la troisième et plus grosse partie de notre financement, c'est la prestation de service. On intervient surtout sur du développement back-end pour du web, avec des start-up qui ont levé des fonds, par exemple, et qui ont des sous à nous donner. Voilà.
Pendant que nos invités boivent, est-ce que quelqu'un d'autre a une question précise sur une partie qui peut aiguiller la conversation ? Ici, devant ? Ici. Non, ouais, très bien.
On fera après. Vous disiez que vous aviez trouvé un éditeur. Vous pouvez un peu plus expliquer comment on contacte un éditeur, comment on engage la conversation.
En fait, on a une équipe, même si la société ne date que de 2008. Nous, on travaille dans le jeu vidéo depuis très longtemps. Donc, on avait déjà croisé certains éditeurs, notamment Focus, qui est notre éditeur commun. Et voilà, en fait, moi, on a pris contact avec, alors pour certains éditeurs, parce qu'on a vraiment essayé d'en contacter le plus possible, bien sûr, à travers Internet, chercher la bonne personne, le bon contact, etc. Pour d'autres, c'était des gens, effectivement, soit qu'on avait rencontrés, soit on avait des contacts communs qui nous mettaient. Enfin, c'est vraiment tous les moyens possibles pour essayer de rencontrer la bonne personne chez les éditeurs. Et puis, effectivement, dans le cas de Focus, des gens avec qui on avait déjà travaillé. Dans une société précédente. Et c'est avec eux, finalement, peut-être parce qu'on les connaissait le mieux aussi et qu'ils savaient un peu ce dont on était capable, qu'on a signé. Donc, on arrive pas les mains dans les poches, évidemment, quoi. On arrive avec un proto, on essaye de les convaincre, évidemment, avec notre projet, mais aussi qu'on est capable d'y aller au bout de ce projet. Donc, il faut les convaincre deux fois, en fait.
Je pense que vous pourriez nous confirmer que quelque part un éditeur aujourd'hui il va à la fois faire confiance au projet mais aussi surtout vu qu'il s'investit financièrement faire confiance au studio qui va le produire. Peut-être que c'est un engagement de sa part aussi sur les hommes qui vont les hommes et femmes qui vont le fabriquer quoi.
Moi je sais qu'en tout cas quand on a commencé on avait contacté des gros éditeurs en l'occurrence Activision pour les citer. Qui nous ont dit ouvertement, mais c'est même pas la peine de nous présenter vos projets parce qu'en fait, tant que votre studio n'aura pas au moins 5 ans d'existence, on signera pas avec vous. Voilà. Bon, ça c'était au moins c'était clair. On n'a pas perdu de temps. Du coup. Mais tout ça pour dire que voilà, un éditeur surtout quand il va mettre beaucoup d'argent, il faut comprendre que c'est des budgets dans certains cas qui sont des budgets en millions. Enfin, dans le cas d'Activision, en tout cas, c'est certain. Ils vont pas avoir du tout assez confiance dans un jeune studio pour pouvoir investir cet argent-là sur des gens qu'ils connaissent pas. Donc voilà, c'est justement les quelques éditeurs qui vont être prêts à suivre des jeunes studios simplement sur la foi de leur prototype et de leur gentil sourire, c'est finalement sont assez peu nombreux.
Ils ne sont pas français.
Focus, enfin, c'est les seuls que je connais.
Oui, mais vous aviez déjà fait quelque chose avant Focus.
Est-ce qu'ils éditeraient un indé comme ça, comme nous, qui sort de nulle part et bonjour on a une belle
idée. Ils aiment vraiment le projet.
Voilà, oui. S'ils aiment vraiment le projet, oui. Ouais. Je l'ai vu sur certains de leurs jeux.
Pour le coup, nous, on a vraiment attendu avant d'aller voir des éditeurs. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord notre première démo, là, le premier jeu qu'on voulait faire. On est allé voir des éditeurs et clairement, on a foncé contre un mur. Voilà. Comment ça s'est passé et ensuite on a dit on va faire les choses, on a même été voir des investisseurs et pareil le mur quoi. Et donc on s'est dit on va faire les choses dans l'ordre, donc on s'est dit on va d'abord faire nos jeux, des jeux auto-édités, donc on en a fait deux et ensuite on est retourné voir des éditeurs pour le troisième projet qui était le premier finalement, et là on est venu avec un prototype, pas juste avec une idée, surtout pas avec un game design document. C'est-à-dire pas avec une bible de game design, quoi. Jamais, jamais. Les éditeurs, ça les intéresse pas. En fait, il faut faire... Enfin, nous, comment on s'y est pris ? On a fait un prototype suffisamment léché, donc on appelle une vertical slice. Une vertical slice, c'est... Il faut s'imaginer que vous faites un gâteau et que l'éditeur, vous voulez lui vendre le gâteau entier, mais du coup, vous lui donnez qu'une tranche. Il a tout le goût du gâteau, il a tous les graphismes, il a tous les sons possibles, il a tout l'univers qu'il comprend avec, avec le prototype, mais ce n'est pas le jeu entier, voilà, tout simplement. Et ça nous avait pris bien 6 mois pour le faire.
Ouais, c'est assez long, hein. La production d'un bon prototype qui est suffisamment, on va dire, proche malgré tout en termes d'idées, de mécaniques, de visuels du projet final. En tout cas, sur les plateformes que nous, on maîtrise, c'est-à-dire des plateformes consoles de salon comme PC, c'est-à-dire des choses où on doit avoir un rendu visuel un peu léché, etc. Oui, ça demande du boulot, ouais. C'est vraiment assez long.
Et surtout quand il y a des contraintes comme si c'est un jeu qui nécessite du serveur, par exemple, un jeu multijoueur, ou s'il y a de la R&D à faire sur certains aspects graphiques ou des choses comme ça, faire rien qu'une tranche, rien qu'une vertical slice, ça peut demander énormément de travail.
Et puis il y a des types de jeux en plus pour lesquels la vertical slice est assez complexe, quoi. Enfin, nous on fait des RPG, montrer tous les aspects d'un RPG, c'est énormément de boulot en fait, parce qu'il faut qu'on voit à la fois le fonctionnement de la GUI qui est assez complexe, avec un inventaire, avec des cartes, avec oui, pardon. GUI, c'est Game User Interface, donc c'est l'interface, ouais, de jeu.
Pro, il y a... C'est... Non, mais tout à fait, il faut parler. C'est, pour le coup, en fait, parce que ça parle aussi... Enfin, en disant ça, on parle aussi d'un aspect de prod qu'on n'a pas, mais qui est pratiquement évident pour nous, mais dont on ne parle pas assez, c'est les différentes phases. Et quand on parle de ça, c'est qu'on va passer énormément de temps en pré-production à concevoir l'idée du jeu, les principes de gameplay, ce qui finalement fait que cette partie qu'on va présenter aux joueurs, parce qu'au final on va aussi produire dans tous les cas cette partie-là pour pouvoir le montrer, tester le principe, etc.
Valider les idées, hein, parce qu'il y a aussi des fois on se plante comme lamentablement.
Voilà, c'est la pré-production, donc les concepts, les idées, la recherche de DA, le début des graphismes, la façon dont on va travailler, qui est très importante, un temps qu'on va passer qui n'est pas négligeable, à concevoir les outils, l'ordre dans lequel on va procéder pour fabriquer le jeu. Et après, un morceau de la production, mais qui finalement, une production, pour ma part, je pense que si on fait bien un jeu, c'est pratiquement autant qu'une pré-production.
La maquette qui va à la fois servir effectivement parfois à aller trouver un éditeur, et puis honnêtement, vraiment, et c'est vraiment super important, ça sert aussi à valider plein d'idées qu'on a pu avoir, parce que sur le papier il y a des choses qui marchent très bien, puis en fait une fois qu'on commence à les faire fonctionner, on se rend compte que c'est nul, que c'est chiant, ou que c'est pas assez intéressant ou pas assez différent, et du coup toute cette partie de maquette, elle est extrêmement importante pour l'équipe. Ça permet donc de valider toutes les décisions qu'on a pu prendre, parfois d'écarter certaines choses, de faire des choix techniques aussi, de se rendre compte qu'on pensait travailler avec tel outil qui se révère finalement pas très adapté à ce qu'on veut faire. Donc il va dire qu'il faut trouver un nouvel outil pour nous permettre d'y arriver. C'est effectivement la phase de pré-production est super importante. Elle permet en fait de dessiner la silhouette de ce qu'on va devoir faire après en production. Et quand on rentre en production, donc une fois qu'on a et les sous, c'est quand même important, et une maquette dont on est content et où on pense que c'est effectivement la bonne direction, le bon univers, les bonnes mécaniques, etc., après on est sur des rails et ça devient effectivement beaucoup plus, j'ai envie de dire, mécanique dans l'équipe.
Parfois ennuyeux.
Oui, parfois ennuyeux, bien sûr. Oui. On recrute aussi plus de monde parce que c'est le moment où d'avoir 2-3 bonhommes et un petit bout de décor qui servait justement uniquement à montrer l'univers et à montrer les mécaniques, là d'un coup il faut 25 niveaux, 45 bonhommes et ainsi de suite. Donc ça devient plus du tout la même chose. Donc il faut évidemment faire presque doubler l'équipe en général en production. Il faut faire extrêmement gaffe au planning parce qu'on a tendance aussi à partir vite dans l'écueil du retard qui peut s'accumuler et devenir ingérable au bout d'un moment. Donc ça devient beaucoup plus mécanique et au bout d'un moment, quand on a réussi à réunir tous les éléments dont on avait besoin pour faire le jeu, on passe en phase de bêta, c'est-à-dire que tout est là, tout fonctionne, il y a encore plein de bugs, des réglages,
des trucs. Ça fonctionne pas.
On va dire ça marchotte.
Ça marchotte, ça marchouille.
Et il faut tout régler pour avant de sortir le jeu, et la phase donc de post-production ou de debug, d'optimisation aussi, pour que ça tourne mieux, pour que, etc. Elle est très longue aussi, mine de rien, souvent.
Surtout si on englobe la partie marketing. On va dire, parce que parfois aussi l'équipe du jeu, surtout en indé, va produire aussi tout ce qui va servir à sa vente. Moi, je sais que en interne, on serait dans l'idée de faut aussi fabriquer les trailers, etc., en fonction des compétences qu'on a en interne. Et tout ça, c'est aussi intégré à la post-pod, ce qui fait que finalement, parfois, on arrive presque au tiers pour chaque partie. Oui, peut-être pas en effectif, mais en temps.
Ah oui, en effectif, non. Je pense que le nombre de mois reste essentiellement centré sur la production. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est un truc que j'ai vu dans pas mal de studios, y compris le nôtre, c'est de sous-estimer la part de post-prod. Se dire, bon, allez, 3 mois pour régler les bugs, ça ira bien. Et en fait, ça va jamais bien. Et il faut toujours au moins doubler le temps qu'on avait estimé au départ pour que ce soit propre, que ça tourne bien. Parce que surtout quand on sort sur console, il faut savoir que le jeu, il est passé entre les mains des consoliers, donc Sony, Microsoft, Nintendo, dans le cas aussi, qui va vérifier que tout fonctionne bien et que si ça leur convient pas, vous reprenez le jeu dans la figure. Et ils vous disent, il faut corriger tout ça. Et en plus, il faut respecter un certain nombre de règles qu'ils ont établies, eux, de leur côté, qui peuvent paraître, pour certaines, relativement absurdes. Quel est le comportement que le jeu doit avoir si on arrache, par exemple, le pad alors qu'on était en train de jouer ? Qu'est-ce qui se passe si... Et tout ça, c'est des règles qu'ils ont établies, eux, de leur côté. C'est épais comme un bottin, hein, le nombre de règles à suivre. Et ils vont vérifier que, dans tous ces cas qu'ils ont listés, le jeu suit bien les mécaniques qu'eux veulent voir appliquer. Donc c'est long.
Peut-être avant d'avoir l'avis de Godefroy sur la question, savoir aussi que pour le coup, peut-être pour vous, si vous faites des portages, donc à chaque fois, je suppose, PC, puis vous passez à la console.
On a un moteur qui nous permet. Notre moteur et il fonctionne sur les 3 plateformes directement.
Parce que ça arrive que pour certains indés, on produit en général une version PC, par exemple. C'est pas forcément
c'est
le cas, mais
simple,
c'est
entre
le plus commun
à produire.
À tester aussi, etc. Et après, on peut repartir complètement en prod. Pour faire en fonction de nos technos, du moteur qu'on utilise, etc., et puis des contraintes techniques qui a rajoutées par le constructeur, repartir complètement en prod pour refaire à chaque fois une version pour chaque console, une version pour le mobile, etc., en fonction du jeu, quoi. Alors je pense que...
Ouais, non, c'est il y a vraiment différents modes de fonctionnement.
C'est ce qui rajoute encore.
Et quand on doit faire un portage, nous on en a fait, mais pour d'autres studios en fait. Ça fait partie des prestats qu'on a fait au début. D'accord. On faisait des portages de jeux PC, souvent effectivement PC, vers les consoles. Et donc c'est une galère sans nom. Ça demande, surtout quand c'est pas son propre code, et donc qu'on découvre des trucs. Nous on avait des commentaires qui étaient faits en ukrainien. Donc il fallait essayer de comprendre à quoi servaient des morceaux de code qui étaient là. Et parfois, ils ne servaient plus, parce que c'était un moteur qu'ils avaient depuis très longtemps. Donc ils avaient laissé des espèces de dinosaures enterrés, des strates de trucs. Voilà, il était toujours là, le truc. Il ne servait à rien, mais ce n'est pas grave. C'était compliqué. Et en plus, effectivement, il faut adapter toutes les mécaniques de jeu qui ne sont pas toujours pensées pour la console. Quand là, vraiment, elles n'ont pas du tout été pensées pour ça. Ça demande un travail qui est très très long et laborieux. C'est pour ça que nous, justement, suite à cette expérience-là, on s'est dit, on va essayer de faire nos jeux en même temps pour éviter justement toutes ces galères. Ce qui fait que les questions, on les a anticipées. On s'est déjà demandé comment on passerait du pad à la souris, par exemple, ce genre de choses. Et de telle sorte que on n'a pas tout à repenser à chaque fois et à faire des adaptations qui, parfois, on sent que c'est du sparadrap et des bouts de ficelle. Ça nous a paru mécaniquement plus intéressant de faire comme ça.
Parce que quand on parle de portage, on parle aussi en général d'adaptation d'interface entre par rapport à la manette. Il faut changer les menus parfois, il faut changer l'orientation du jeu pour adapter à des outils d'interactivité qu'il y a sur telle ou telle console et qu'on n'a pas sur la version PC, etc. Du coup, est-ce que toi, tu as un avis sur la question ?
Alors du coup la question c'était quoi ? Parce que ça fait un moment là qu'on y répond.
On est passé sur le portage, il me semble que c'était sur... Alors peut-être qu'on peut faire... appeler le public.
Sinon j'avais des trucs à dire dessus, mais c'est... par exemple les intégrations, consoles et stores, on a tendance à oublier un petit peu, mais Rien que le fait d'intégrer les fonctionnalités de Google Play Store quand on sort sur Android, d'iTunes, de Steam, de
pour que
toutes ces choses-là, ça prend
avoir vos achievements Google.
C'est important.
Un dev a souffert.
La connexion utilisateur, la sauvegarde, tous ces petits trucs-là qu'il ne faut pas oublier, en plus du polishing du jeu, toute la.
C'est des heures de test, de la post-prod aussi.
Et pour certains types de jeux, par exemple les des free-to-play, nous on fait un free-to-play, alors ça nous intéresse, mais on va avoir en fait beaucoup de travail sur tout ce qui est intégration marketing dans le jeu. Par exemple des alors ça peut faire hurler certains, hein, mais faire des packs cadeaux qui reviennent tous les jours, ou tout le store interne pour acheter des équipements pour les petits personnages, des choses comme ça.
Écoutez bien, ils vous donnent les recettes. Vous pouvez poser des questions sur comment ils vous manipulent.
On peut aussi. Ouais, voilà. Donc c'est pour dire que aussi, selon les types de jeux, la pré-prod, prod et post-prod vont pas se passer toujours de la même manière. Nous, par exemple, on fait un jeu à système, donc on n'a pas un grand univers, on n'a pas besoin d'avoir une très longue prod avec beaucoup de création d'assets graphiques pour créer un gros univers. Nous, c'est plutôt tout un système avec beaucoup de développement sur beaucoup d'aspects, mais qui crée un jeu à système global.
Définis jeu à système.
Alors, pardon. Ouais,
j'allais le dire, je pense que c'est important.
Un jeu à système, ça va être par exemple un jeu tactique, donc avec beaucoup de règles. Ça va pas être un monde ouvert où on peut se balader et tuer des ennemis librement, ça va plutôt être du style un jeu d'échecs en plus compliqué. Est-ce que ça répond à peu près ?
Où va falloir prévoir toutes les situations différentes et du coup créer beaucoup de systèmes qui vont remédier à toutes ces situations, tous ces points.
Voilà, et là on est parti sur un jeu à système qui a une assez grande profondeur en fait, avec un micro gameplay et un macro gameplay avec des choses assez complexes.
Bon, c'est ça pareil.
Pas parler à tout le monde. Bon, c'est pas très grave, mais c'est juste pour dire que du coup ça demande beaucoup de développement. Et de R&D sur les plans artistiques et techniques. Et du coup, ça fait une pré-prod très longue. Nous, ça fait 3 ans qu'on se casse la tête sur certains aspects. Ça commence à avoir pas mal de gueule, mais ça a pris du temps et on a dû refaire beaucoup de choses. Le jeu vidéo, c'est souvent un art itératif où on fait quelque chose et puis on se rend compte que finalement, c'est pas idéal, alors on va le refaire autrement. Et ça sur tous les aspects du jeu.
Après,
on a refait chaque aspect du jeu plusieurs fois.
Peut-être moins avec l'expérience, mais...
Voilà, c'est aussi notre manque d'expérience hein, qui fait ça.
Mais même, je pense que ça arrive beaucoup que des triple A soient revus complètement, voire jetés à la poubelle à des moments tard. J'ai pas d'exemple en tête, mais je pense qu'on pourrait en trouver.
L'exemple d'Arkwork, avec ce qui s'est passé sur I'm Alive, est un assez triste exemple parce qu'ils en ont beaucoup souffert, mais... c'était un développement long, avec une équipe qui est quand même montée jusqu'à 120 personnes. Et puis, le jeu a été killé, ils l'ont appris par la presse.
Ah oui, quand même.
Du jour au lendemain.
Sympa, ça.
Et Ubisoft, en fait, a repris le projet, l'a filé à une équipe en Chine. Alors, j'y passais pas du tout pour faire du ouin-ouin sur c'est la faute des Chinois, c'est pas du tout ça, hein, mais... Juste pour expliquer, donc ça a été vraiment donné à une équipe qui est radicalement différente, plus du tout ni la même direction, ni le même encadrement, etc. Et refait complètement from scratch, alors que voilà, il y avait eu plusieurs années de travail l'investissement d'énormément de gens. Donc ça a été un crève-cœur. Enfin, je pense que pour l'équipe, ça a été très très douloureux à vivre.
Et ça peut devenir une stratégie aussi pour certaines entreprises de tuer des jeux pour en faire mieux vivre d'autres. Alors c'est triste, hein, mais par exemple, Supercell, ceux qui ont fait Clash of Clans, que vous connaissez certainement tous, ils ont quand même développé et tué une vingtaine de jeux pour sortir Clash of Clans. Mais ils l'ont fait volontairement, ils n'ont pas forcément sorti tous leurs jeux. Ils les ont développés, ils ont testé, et puis ça leur suffisait pas.
On a sorti tous les jeux qu'on a commencé à développer.
Je pensais aussi à Ankama, qui a fait pas mal de projets, dont Slage, il me semble, qui est jamais sorti pour le coup.
Je pense qu'en fait, c'est une mécanique qui existe surtout. En fait, l'idée de développer des jeux et d'y investir beaucoup de temps, puis de les killer alors que la production est lancée. En pré-prod, ça arrive beaucoup plus souvent, mais parce que justement, la pré-prod, ça sert à ça. Donc, on fait un test, ça marche pas, tant pis.
Pour arriver à ce qu'on disait tout à l'heure sur le moment où on peut tester et on voit que ça marche pas parce que.
Les jeux killés en production, c'est en général plutôt le fait des éditeurs. Alors, des éditeurs qui peuvent aussi être eux-mêmes développeurs. Par exemple, Ubisoft, ils ont leurs propres équipes en interne Et parfois, ils travaillent des studios externes. Mais, et je pense qu'Ankama, c'est pareil, ils ont l'envergure d'un éditeur. Donc, oui. C'est effectivement plus des choses qui sont prises, des décisions qui sont prises au niveau d'un board éditorial qui se rend compte que ben, tel jeu, finalement, on pense que c'est pas le bon moment pour le sortir commercialement. Finalement, on pense qu'il sera pas rentable, etc. Et donc, il vaut mieux le killer avant de le sortir plutôt que de continuer à investir de l'argent. Il faut savoir que pour un éditeur, le prix marketing d'un lancement de jeu est pratiquement équivalent, s'il veut que ça se passe bien, au coût du développement.
Donc, voir parfois. Il me semble qu'on est à un tiers de prod et deux tiers pour des triple A.
Ça, ouais, enfin, après, je pense que ça dépend un petit peu.
Aux dernières nouvelles, c'est ouais, pour très gros jeux, Ubisoft, oui, par exemple, c'est à peu près ça.
Il faut imaginer.
Sur
un jeu
mobile, ça peut aller encore beaucoup plus loin.
Ouais. Il faut imaginer qu'un jeu qui a déjà coûté 50 millions à développer, bah, ça veut dire qu'ils vont, eux, mettre 100 millions en plus en marketing.
C'est des petits
coûts. Il vaut mieux,
coups, hein,
effectivement, dans ces cas-là, s'ils se rendent compte que c'est pourri, ça leur coûte moins cher de se dire OK, c'est 50 millions qu'on met à la poubelle, mais on n'a pas 100 millions à rajouter en plus pour essayer de le vendre, quoi. Donc ça paraît très bizarre, c'est évidemment pour les équipes, encore une fois, c'est horrible parce qu'eux, ils se sont investis, ils ont mis tout leur cœur là-dedans, c'est une histoire de rentabilité, c'est vrai que c'est hélas aussi ça, le jeu vidéo, quoi.
Oui, c'est toujours l'espèce d'équilibre entre l'œuvre et le produit, puisque on parle vraiment de produit, puisqu'on est une industrie. C'est le thème, justement, l'industrie du jeu vidéo. Et il y a de la production, donc il faut que le jeu puisse être rentable. C'est pas juste on fait une œuvre comme ça pour la beauté ou la culture.
Et, notre point de vue de développeur, souvent, c'est en tout cas ce qu'on a en tête ou c'est ce qu'on a envie,
oui,
de faire.
Tout à fait.
Nous, on est les gentils artistes. Et puis après, y a des gens qui sont un peu plus droits dans leurs bottes, un peu plus carrés, qui disent « Oui, mais bon, c'est bien tout ça, mais moi, il faut que je le vende, ton truc. » Donc tu vas changer ça, on va refaire ci, et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'éditeur, hein, d'encadrer en partie le développeur pour qu'il ne parte pas très très loin dans son univers et qu'il arrive à en faire un produit commercial. Et puis après, qu'il va évidemment se charger du marketing en partie ou d'essayer de vendre le jeu aux joueurs. Et voilà.
Je pense que le plus dur, c'est quand on a les deux casquettes, c'est-à-dire qu'on a, j'ai plein d'exemples en tête, nous y compris, d'avoir des gérants qui sont avant tout des créatifs, et du coup, savoir à quel moment, apprendre à quel moment, on doit faire quand même passer avant tout l'aspect produit à l'aspect œuvre. C'est une question qu'on se pose très souvent, voire tous les jours, et des directions qu'on prend, de faire des choix, des concessions par rapport à nos créations, et d'être à cheval tout le temps entre ces deux notions. Entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on rêve de faire, ce qu'on veut apporter aux joueurs, ce qu'on veut mettre dans la culture geek ou ce qu'on veut apporter de nouveau, et le fait que il y a un moment, il va falloir qu'ils rapportent de l'argent pour payer le prochain, quoi.
Alors c'est pas une obligation. Évidemment, on peut faire des jeux sans avoir d'envie commerciale. Et à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus libre de ce que vous voulez faire et vous pouvez vraiment exprimer votre identité d'auteur pour comparer avec les films d'auteur. Oui. Voilà.
Donc, et dans ces cas-là, créez pas une boîte pour ça. Quoi.
De quoi ?
Dans ces cas-là, créez pas une boîte pour ça.
Non, il faut pas créer.
Il faut le faire en tant qu'amateur.
Après, pour le coup, il y a totalement moyen de le faire. Et justement, je trouve que la métaphore avec les films d'auteur que tu utilises, il y a vraiment des exemples de jeux qu'on peut appeler des jeux d'auteur quelque part, où là, c'est avant tout vraiment, on parle vraiment d'œuvre pour le coup. Et on est dans l'idée de faire...
On parle toujours d'œuvre.
Oui.
Honnêtement, oui. C'est une œuvre collective, mais c'est un travail d'équipe.
La plupart du temps, quand même, le fait que ce soit un produit domine à cause de cet aspect pécunier.
Je pense que
même
c'est
si pour nous,
plus le projet est un gros projet, mais ça, je pense que vous vous en rendez compte. De toute façon, vous, au moins en tant que joueur, quoi, le côté... faire la différence entre un Assassin's Creed qui a ses qualités, comme peut l'avoir une super production hollywoodienne, et effectivement le petit jeu développé par une beaucoup plus petite équipe qui est moins ambitieux parce que... Alors en fait non, il est plus ambitieux en termes d'investissement personnel, de travail de chacun dans l'équipe, etc. Mais il est, on va dire, techniquement moins ambitieux. On n'essaye pas de vous faire sauter sur les toits de Jérusalem quand on est quatre, quoi. On est un petit peu obligé de penser son projet et son envie autrement, mais...
Il y en a qui ont essayé.
Non, j'allais faire une blague, j'allais dire non, nous on est juste un renard qui saute de branche en branche, c'est déjà pas mal.
C'est carrément pas mal,
ouais.
Si vous connaissez pas ce jeu, allez voir, c'est bien.
C'est pour ça aussi qu'on emploie souvent des styles graphiques différents dans le milieu du jeu indépendant, des styles qui peuvent être plus facilement mis en application. C'est plus facile, par exemple, de faire un bout de ville avec des murs de Jérusalem à grimper tout en 3D low poly, très simple, avec peu de textures et peu de détails, c'est plutôt que de tout faire de manière réaliste.
Je pense qu'on a passé beaucoup de temps à discuter. S'il y a 2-3 dernières questions rapides, et du coup, on va essayer de répondre très synthétiquement, je pense qu'on peut. Ouais. Vite fait, si quelqu'un a une question qui peut pas s'empêcher de poser, si on a été complètement flou sur un truc.
Bonsoir, merci beaucoup. Déjà, c'était super intéressant. Pour vous, l'industrie du jeu vidéo en France, vraiment, même si on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de frontières, mais quand même en France, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Quels sont les points un peu où ça manque? Un petit peu votre
état. Essayez de faire une phrase chacun, histoire de...
Alors, le jeu vidéo est toujours considéré comme... Je crois qu'il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps, enfin une étude plutôt, quelque chose de plus sérieux, qui montre que le jeu vidéo est toujours considéré comme de la sous-culture, c'est-à-dire quelque chose vraiment de... Enfin, voilà, c'est pour les enfants, on s'en fiche, quoi, c'est pas de l'art, voilà. J'irai pas sur le domaine de est-ce que c'est de l'art ou pas. Mais aujourd'hui en France on a de tout, c'est-à-dire qu'on a à la fois des développeurs amateurs, à la fois des développeurs de jeux artistiques, on a des étudiants, on a des petits studios, on a des moyens studios, on n'a pas énormément de gros studios à part Ubisoft et peut-être Arkane
qui reste quand même pour le coup
Donc en fait on a toute une diversité de profils et donc en fait avec... Alors les aides, il n'y en a jamais assez des aides, mais moi je ne dis pas qu'il faut qu'il y en ait plein, mais il y en a en tout cas. Quand vous faites un premier jeu, je vous déconseille de demander une aide parce qu'on ne vous la donnera pas. En fait, il faut vraiment que vous fassiez vos armes d'abord. Donc c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour savoir faire un jeu vidéo, il faut faire un jeu vidéo. Voilà. Donc voilà, pour moi, ce qui se passe en France... tout se passe bien en fait, c'est-à-dire que...
Tout se passe mieux,
voilà. C'est-à-dire qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. C'est pas un univers que je considère de compétition. En fait, c'est le marché qui nous met en compétition quand on veut en vivre. Mais sinon, entre développeurs, il y a plutôt une bienveillance. Donc moi, je trouve qu'en France, ça se passe plutôt bien, le jeu vidéo.
Oui, non, je pense que ça s'est amélioré. On a eu des périodes économiques en plus très très difficiles pour les studios, et là c'est plutôt en train de stabiliser. Alors je ne vais pas paraphraser un politique dont je ne citerai pas le nom pour dire tout va bien, machin. On n'en est pas là non plus, mais oui, il y a des profils de société effectivement très très variés, avec du coup de la place pour plein d'idées différentes, pour plein de créations différentes. On est soutenu par le CNC dont on parlait tout à l'heure, et qui est effectivement une super, dans le sens où leur démarche est... encourage vraiment la création. Ils ont l'air de vouloir en plus l'élargir maintenant à l'écriture, à la conception de projet. Les politiques commencent à être un petit peu à l'écoute. C'est vraiment le début, mais là on le voit. C'est aussi parce que c'est la campagne qui se met en place, mais tous les politiques qui débarquent justement chez notre éditeur pour venir lui serrer la main.
C'est la campagne.
Voilà, c'est la campagne, mais c'est aussi ils ne faisaient pas la même chose il y a 5 ans. Donc c'est quand même que là aussi, ils commencent à se dire que le jeu vidéo, c'est une force culturelle en France, qu'il s'y passe des choses intéressantes, que c'est quelque chose qui peut servir à parler de culture, qui peut servir à faire travailler plein de gens qui sont créatifs, intéressants et rigolos. Et donc, ça va, honnêtement, oui, ça va plutôt mieux qu'à une époque. Et j'espère que ça va continuer à aller vers encore plus de création, vers encore plus de solidarité entre studios. Moi, j'attends toujours une chose dont je rêve en fait depuis des années, et quasiment quand on a créé Spiders, c'est le moment où on pourra financer des développements de plus petits studios, de jeunes studios, avec des studios plus anciens, en fait, faire une sorte de patronage pour lancer des nouvelles idées. Et c'est des choses un peu difficiles à mettre en place. Il faudrait forcément passer par l'associatif, des choses comme ça. Mais je ne désespère pas que ça arrive un jour, parce que je pense que c'est un peu un moyen de, à la fois, de transmettre une expérience, justement. Nous, ça fait longtemps qu'on est là, etc. Et puis aussi de les aider financièrement, parce que les éditeurs plus classiques ne sont pas toujours à l'écoute, alors que nous, on peut être peut-être plus sensible à certaines idées.
Ouais, je pense, c'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on débute, à être un peu moins, à être parfois, comme on est soumis aux problématiques directes, à l'incertitude et tout, à être un peu plus négatif. Mais en soi, c'est vrai qu'il faut recadrer les choses. C'est vraiment une belle industrie, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais c'est aussi motivant et c'est aussi très intéressant. Et c'est loin d'être négatif. Il y a quelque chose qu'on retrouve, c'est que nous, on s'est créé, et justement, pour le coup, on peut le dire pour nous débutants, c'est on a été vraiment aidés, soutenus, on nous a accompagnés. Il y a beaucoup de choses en France, en Indé, on a une sorte de groupe qui s'est créé, dont on s'entraide, il y a des discussions. On le voit aussi par rapport au cluster, dont Godefroy pourra peut-être vous résumer un peu le rôle, mais qui pour nous a été très important et déterminant dans notre survie, clairement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entraide, ça commence à être reconnu culturellement, on avance, vraiment, on voit la différence d'année en année.
On est rentré au musée, hein.
Oui, tout à fait. Bah, et puis les arts ludiques, quand on voit les expos des arts ludiques qui quand même donnent une sorte de, vraiment un crédit qu'on n'avait pas il y a quelques années encore. Et ça, c'est plutôt motivant. Je pense que ça va voilà. Progresser.
Oui, pour moi, de toute façon, c'est pas pire en France qu'ailleurs, ça c'est clair et net. C'est juste une industrie qui devient assez mature et donc évidemment c'est pas peut-être pas aussi facile qu'à une époque de percer avec la même persévérance, mais ça reste tout à fait possible et ça reste un métier passionnant avec plein de gens bien. C'est vraiment je trouve que la communauté des développeurs de jeux est très intéressante et très sympathique. Là on a pu aller encore à un événement en début de semaine, il y avait William d'ailleurs et c'était vraiment super sympa.
Un petit conseil du coup, c'est que si vous voulez faire du jeu vidéo, ne restez pas dans votre coin. Oui,
voilà, c'est ce que je voulais conclure là-dessus. En fait, je voulais conclure sur le fait que, surtout si vous voulez en faire votre métier, que vous vouliez rejoindre un studio ou en créer un, surtout restez pas dans votre coin. Alors faites vos thèses, vos jeux, etc. dans votre coin si vous voulez, mais sortez, parlez à des gens du secteur. Et regardez les structures en place pour aider.
Alors, les clusters là-dessus sont effectivement un très bon moyen de rencontrer les autres devs, de leur parler de vos galères, d'éventuellement pouvoir parfois emprunter du matériel ou des compétences ou des conseils. Et c'est vraiment super utile. Ouais.
Du coup, je presse pour ma paroisse, mais pour ma paroisse. Mais du coup, je vous encourage fortement à contacter Atlan Games si vous souhaitez vous lancer là-dedans. Parce que l'objectif d'associations comme ça, et il y en a plusieurs en France, il y en a également à Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Atlan Games s'occupe surtout de la Bretagne et des Pays de la Loire et a pour vocation d'accompagner les structures en création et en développement pour le jeu vidéo, à mettre en relation des professionnels, organiser des événements et de manière générale à soutenir l'industrie. Et du coup, on a un espace de coworking rue de Strasbourg où on est plusieurs structures à bosser ensemble. Il y a beaucoup de synergies qui se dégagent, des projets en commun, de l'entraide. Et on accompagne aussi les jeunes structures pour apprendre la gestion d'entreprise, parce que ce n'est pas anodin non plus. Quand on crée une entreprise, il faut s'intéresser fortement à la gestion d'entreprise.
C'est surtout pas notre truc.
Pardon ?
C'est surtout pas notre truc à la base.
Bah voilà, en général, on a déjà une forte passion, on s'intéresse au développement, côté artistique, etc. Et puis on oublie un petit peu que créer un studio, c'est quand même une entreprise et qu'il faut la faire vivre et qu'on est responsable de quelque chose qui va durer quand même un certain paquet d'années normalement.
On va avoir des salariés et qu'il va falloir les payer, voilà. Leur faire des fiches de paye qui ressemblent à quelque chose et ainsi de suite.
Et alors, avoir des contrôleurs, ça,
c'est pas bon. La comptabilité.
Et le cluster aide aussi à structurer le projet, mais à faire des dossiers de subvention, à informer sur tout ce qui est possible de faire, et du coup à sécuriser le financement et à aider le recrutement. Bon. Donc, allez nous voir.
Je pense qu'on va arrêter là, avant qu'on nous coupe la lumière et tout ça.
Juste un mot pour conclure tout ça. Si vous aimez le jeu vidéo, faites-en. On n'a pas encore tout découvert, c'est pas vrai. Il y a un milliard de choses encore à faire. C'est comme si on avait posé le pied en Amérique, quoi. On a tout un continent à découvrir. Même si ça fait un peu plus de 30 ans qu'il y a des jeux commerciaux et ainsi de suite, il y a encore tout à faire. La technologie évolue tout le temps et donc avec plein de nouveautés à faire. Là, il y a la VR qui amène des nouveaux usages. On est dans un, oui, dans un monde à façonner et à découvrir, et on a besoin de nouveaux talents et de votre créativité, de votre imagination. Donc venez, c'est bien, on est gentils.
Est-ce qu'il y a des gens dans la salle là, qui ne bossent pas dans le jeu vidéo, mais qui souhaitent bosser dans le jeu vidéo, soit en rejoignant une structure, soit en créant une? Oui, quelques-uns quand même. Peut-être une quinzaine.
Bien, bravo.
C'est bien.
Bah, peut-être des futurs collègues, on va voir.
Bon courage.
Voilà.
Vous croyez en votre destin.
Non, je pense que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses intéressantes. Enfin, moi, je pense. Après, j'espère que vous aussi. Beaucoup de points ont été abordés qui sont pertinents par rapport au sujet, qui est assez vaste, hein, évidemment, synthétique, en essayant de simplifier. J'espère pas trop de choses obscures qu'on a pu vous dire à cause de l'habitude ou de... Voilà, à force de parler entre nous.
Il y a beaucoup de gens nous poser des questions sur le côté ensuite. Et ouais. Puis demain, il y a une autre conférence,
tout à fait.
Je crois.
On a une conférence à la même heure, il me semble, en haut, sur la machine et la narration, et sujet passionnant qu'on va essayer aussi de garder synthétique, où on va pouvoir discuter dans le média, l'œuvre qu'est le jeu vidéo, qui est surtout une œuvre interactive. Qui est la grosse différence avec d'autres œuvres, comment on va intégrer cette narration avec la machine pour faire des histoires justement qui sont interactives et qui ne sont pas unidirectionnelles, qui sont les notes, oui, celles du joueur, le jeu de rôle. Donc voilà, je pense que pour la plupart, on va rester peut-être sur le côté pour répondre aux questions de ceux qui n'auraient pas osé ou eu le temps de poser, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu faire beaucoup de questions. Et puis on va laisser la scène.
Et je voulais juste rajouter, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ça, qui veulent se lancer là-dedans, regardez du côté des afterworks qui sont organisés. Alors, il y en a un peu partout en France aussi, mais à Nantes, il y a le Game Dev Afterwork, organisé une fois par mois par Atlan Games. En général, dans les locaux d'Atlan Games, même si la prochaine fois, je crois que ça va être chez Yardtube, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, regardez sur notre site ou sur la page Facebook, par exemple, on met des liens. Le prochain sera certainement la semaine prochaine. Enfin, il y a un jour férié mardi, ça devait être mardi, donc je ne sais pas encore quelle date ça sera, mais je vous invite à suivre ça.
Voilà, on va y aller avant qu'il nous coupe la lumière. Merci à tous d'être venus.
Merci.